chronique pour la paix. Ilan Rosenkir, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour Lise, bonjour à tous les auditeurs.
Alors, Ilan, nous avons une invitée qui est par téléphone en direct d'Israël. Elle est essayiste et historienne. Elle s'appelle Galia Ackerman, née à Moscou, ayant vécu plusieurs années en Israël, en France depuis 1984. Elle a travaillé pendant 25 ans à RFI. Galia Ackerman est spécialiste de la Russie post-soviétique. Elle est directrice de la rédaction du récent site Desk Russie et son dernier livre, Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine, premier parallèle 2019. Galia Ackerman, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, je vais juste vous corriger parce que vous avez dit que je vous parlais d'Israël, en fait, non.
Non, c'est vrai, apparemment, voilà, j'ai cru. Alors, mais c'est pas grave, voilà, donc Ilan, on vous passe la parole pour
merci.
Nous dire de quoi, ce que vous allez évoquer aujourd'hui comme thématique avec Galia Ackerman.
Oui, bonjour Galia, et on sait que la Russie joue un rôle important dans la région, que ça soit en Syrie, que ça soit dans le cadre du dossier iranien, que ça soit même en Israël du fait de la présence de plus d'un million de citoyens dont beaucoup ont conservé la double nationalité. Et c'est donc avec cet arrière-fond que le 22 et le 23 octobre dernier, Naftali Bennett et Vladimir Poutine se sont rencontrés à Sotchi. Il s'agissait de la première rencontre depuis l'entrée en fonction de Naftali Bennett en juin. Et puis, par ailleurs, c'est une rencontre qui se tenait aussi à l'occasion dans le cadre des 30 ans du rétablissement des relations diplomatiques entre la Russie et Israël. Mais outre cet aspect protocolaire, il y avait sans doute probablement d'autres objectifs à cette rencontre. Est-ce que vous pouvez revenir, Galia, sur les objectifs de cette rencontre et, à votre avis, ont-ils été atteints ?
Écoutez, ça n'a pas été expliqué très clairement, ni objectif, ni d'ailleurs les résultats de cette rencontre, parce que cette rencontre qui a duré, comme vous l'avez dit, 5 heures, elle s'est déroulée à huis clos, la presse n'a pas été admise, et en fait, on sait à peu près de quoi ils ont parlé, mais il y a beaucoup de choses qui restent des inconnues, donc on pense qu'ils ont parlé, bien sûr, du dossier iranien qui préoccupe énormément Israël, ils ont parlé de la situation en Syrie, où d'ailleurs la Russie n'a pas vraiment tenu ses engagements par rapport à la protection d'Israël. Ils ont parlé, bien sûr, de toutes sortes d'aspects de relations bilatérales. Ils ont parlé notamment de l'autorisation que la Russie réclame pour les touristes russes pour visiter Israël. Bah, pour l'instant, ce n'est pas possible parce que le fameux vaccin Sputnik V n'a toujours pas été reconnu valide par l'Agence européenne du médicament et par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, pour l'instant, les Russes ne peuvent toujours pas aller en Israël à moins de subir une quarantaine.
Des tests, ça vient de changer justement, voilà. Et le Sputnik a été reconnu, il y aura des tests à faire, mais les touristes russes et les juifs russes pourront revenir en Israël ou partir en Russie. C'est voilà. Déjà une des retombées de cette rencontre.
Mais je pense que le plus important était simplement de, comme on dit, sentir un peu la température, parce qu'on sait très bien que Vladimir Poutine avait des relations assez exceptionnelles avec Benjamin Netanyahou. Et donc maintenant, avec ce changement, je pense que les deux voulaient tester. Est-ce que les relations seront aussi
bonnes,
conséquentes, proches et bonnes et pour l'instant, ça semble être le cas.
Oui, c'est sûr que cette rencontre était importante pour Bennett, puisque c'était quelque part une espèce d'intronisation, et semble-t-il ça a marché, puisque la rencontre a été effectivement exceptionnellement longue. Vous avez parlé d'une rencontre de 5 heures, ce qui est donc hors cadre diplomatique habituel. Et d'ailleurs, ça a passablement énervé Netanyahou, qui a publié en Israël un communiqué rappelant le nombre de fois qu'il avait rencontré Poutine, le nombre de conversations téléphoniques qu'il avait eues avec lui, et en faisant passer le message subliminal à Poutine que bientôt il serait de retour et que donc il suffisait d'attendre.
Oui. Netanyahou, bien sûr, peut publier tout ce qu'il veut, mais l'histoire ne reste pas sur place. Et toujours est-il que c'est maintenant Bennett qui est aux commandes. On ne sait pas pour combien de temps, pas très longtemps, bien sûr, parce qu'il y aura la rotation. Mais pour l'instant, c'est lui qui est personnifié en quelque sorte Israël. D'ailleurs, il y avait encore un thème assez important qui a été abordé pendant cette rencontre, c'est les questions mémorielles. Poutine essaie, le régime Poutine essaie en quelque sorte d'imposer à Israël les commémorations de l'héroïsme des soldats et officiers soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il y a un projet de musée d'ailleurs là-dessus. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots?
Oui, il y a maintenant un projet de grand musée qui sera consacré à la bravoure, aux exploits de militaires d'origine juive dans la Seconde Guerre mondiale. Et en premier lieu, bien sûr, des militaires juifs soviétiques. On sait que parmi les juifs, proportionnellement au nombre des habitants, il y avait probablement la plus haute proportion des héros de l'Union soviétique, qui est le plus haut titre, donc c'est pour des exploits extraordinaires. Et donc, maintenant, l'idée générale, on l'a vu déjà avec la visite de Poutine de Yad Vashem pour la... Attendez, quelle était la... Je perds un peu la pédale. Quel était l'anniversaire de la libération d'Auschwitz? Et donc Poutine était à Yad Vashem, et là aussi il a fait tout un discours, et ensuite Yad Vashem a été obligé en quelque sorte de s'excuser pour avoir permis à Poutine d'interpréter l'histoire pas tout à fait conforme à l'original.
Oui, il y a eu un peu une réécriture.
Voilà, et donc maintenant, il y a aussi un monument ouvert à grande pompe à Jérusalem pour les victimes du blocus de Leningrad. Et c'est ça, c'est-à-dire il y a progressivement l'idée que Israël doit être éternellement reconnaissante à la Russie pour avoir stoppé le génocide du peuple juif pendant la guerre. Ce qui est vrai et pas vrai en même temps, parce que l'Union soviétique n'a absolument jamais mis devant ses militaires l'objectif de stopper spécifiquement le génocide, tout comme les autres alliés d'ailleurs.
Donc effectivement, cette partie idéologique est importante dans le narratif que Poutine veut promouvoir et sur lequel il peut s'appuyer, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de ressortissants de juifs russes qui vivent en Israël et qui ont conservé cette mémoire. D'ailleurs, il y a tous les ans un défilé pour fêter la victoire et tous les avec les juifs russes qui sortent leur médaille qui occupe toute leur poitrine et qui permet de faire toujours des photos assez folkloriques dans la presse.
C'est vrai.
Dans la presse israélienne. Et donc, mais À part cette question, il y aura probablement aussi une autre retombée dont on parle moins, mais qui ressortira peut-être un peu plus tard. C'est la volonté de la tentative de la Russie de prendre pied sur le marché israélien dans le domaine des transports et en particulier dans le domaine des transports ferroviaires sur lesquels les Russes ont une expertise reconnue. Et là, ils sont conscients des possibilités que le marché offre. Mais avant peut-être de revenir sur l'Iran, même si on n'en a pas parlé dans le compte-rendu officiel de la rencontre, qui effectivement a été qualifié de confidentiel par le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, est-ce que vous avez le sentiment que la question palestinienne a été abordée? On peut se souvenir que lors de l'annexion de la Crimée, Israël n'a pas condamné cette annexion et n'a pas suivi les mesures de rétorsion contre la Russie. Est-ce que ça veut dire qu'Israël attend un peu un retour de cette position qu'elle a prise s'agissant de la Crimée?
Vous savez, il y a quand même une différence assez substantielle, c'est-à-dire que la Russie est à la fois amie avec Israël, mais aussi amie avec tous les ennemis d'Israël. La question palestinienne, d'une part, Poutine veut peut-être ménager un tout petit peu Bennett, mais il n'a pas beaucoup de marge. La Russie a toujours voté toutes les résolutions pro-palestiniennes, par exemple au Conseil de sécurité, sans exception. Qu'Israël ne condamne pas l'annexion de la Crimée, ça arrange certainement Poutine, mais il va. Je ne crois pas qu'il puisse beaucoup céder sur la question palestinienne parce que ce sont des résolutions internationales, mais surtout parce que il est ami avec Bachar el-Assad. Il soutient les Hezbollah, il soutient.
Excusez-moi de vous interrompre. Il est ami avec Bachar el-Assad, mais d'un autre côté, il laisse une certaine liberté de manœuvre à Israël pour intervenir en Syrie contre le Hezbollah, contre les Iraniens présents en Syrie. Est-ce que de ce point de vue-là, cette liberté de manœuvre va se poursuivre ou elle va être restreinte, sachant qu'il s'agit effectivement d'éviter les incidents, comme il a pu s'en produire avec cet avion russe qui avait été abattu?
Mais vous savez, c'est ce que je dis. Poutine peut-être ne pas condamner trop sévèrement ou faire des petits gestes envers Israël, mais je crois que encore une fois, Poutine soutient Hamas. Ils ne reconnaissent pas Hamas comme une organisation terroriste. Ils soutiennent Hezbollah et ils sont très liés à l'Iran, même commercialement. Ils sont plus ou moins maîtres. En Syrie, qui est toujours en guerre avec Israël. Donc, moi, je ne vois pas qu'est-ce que Poutine peut exactement céder sur la question palestinienne.
Oui. Eh bien, ce sera le mot de la fin, je pense, Ilan.
Alors, je voudrais remercier Galia. Effectivement, on termine. Je rappellerai que le 8 novembre, il y aura une réunion par Zoom organisée par La Paix Maintenant et J-Call, une rencontre avec Eli Barnavi,
ancien
ambassadeur, qu'il est inutile de présenter, et Mossi Raz, député émérite à la Knesset. Cette rencontre est gratuite, mais il est nécessaire de s'inscrire. Vous trouverez toutes les informations sur le site de La Paix Maintenant ou le site de J-Call. Et il me reste à vous remercier et à souhaiter une bonne fin de semaine à tous nos auditeurs.
Merci beaucoup et merci Galia Ackermann, quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir Ilan Rozenkir.
Oui.
Merci.
Au revoir. Merci.